France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
L'Ukraine encore au centre d'un sommet européen qui commence demain. La guerre, les territoires que les Russes veulent garder, les garanties de sécurité, la place de l'Europe. Trump qui engueule Zelensky avant de se réconcilier. Et inversement, comment les Ukrainiens voient-ils ces discussions-là? À quoi sont-ils prêts en cette entrée d'hiver? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Trump, encore lui, est-il en train de tester les limites constitutionnelles de son pouvoir de commandant en chef avec le Venezuela? C'est la question de Frédéric Saïs qui remet le monde à l'endroit. Le reportage est en Espagne, dans les bars de Madrid où on réinvente le flamenco, où on parle le taconeo, ce bruit des talons sur le bois.
L'origine du flamenco, c'est populaire. C'est né dans la rue, c'est né dans les maisons, c'est né et ça marque beaucoup.
Le reportage est signé Mathieu de Taillac. Vous le découvrirez à partir de 18h41. Sous les radars, Guillaume Auda a trouvé des empreintes de dinosaures dans le nord de l'Italie. Et Ilana Moriousef, qui lit et relit les auteurs étrangers au fil de l'actualité, s'est arrêtée justement entre le Venezuela, elle aussi, et l'Argentine. Ce sera juste avant 19h. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure en l'ouvrir.
And there is no more important act of European defence than supporting Ukraine's.
C'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qu'on entend, c'était ce matin dans l'hémicycle du Parlement européen, alors que se tient donc demain un sommet des dirigeants de l'UE. Il n'y a pas d'action plus importante pour la défense européenne que de soutenir la défense de l'Ukraine. Les prochains jours seront cruciaux, dit-elle, pour y parvenir, car comme toutes les négociations de paix, elles s'intensifient, les attaques russes se multiplient aussi. Bonsoir, Anna-Kona Lebedev.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes à Kiev, vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques. Et donc, à Kiev, c'est pour ça qu'on est heureux de vous parler, à engranger à la fois des témoignages et des impressions. Je voudrais qu'on commence par là. Anna-Kona Lebedev, l'Ukraine est au cœur de toutes les conversations, côté américain, côté européen. Zelensky à Bruxelles, évidemment, demain. Est-ce que les Ukrainiens les suivent, ces discussions, ou est-ce qu'ils jettent dessus finalement un regard presque blasé qui dit « on parle de nous, mais il ne se passera rien ».
Alors vous voyez là à Kiev il fait nuit, fait froid, le courant est donné quelques heures par jour. Sur le front la situation est compliquée, donc bien évidemment les Ukrainiens suivent avec attention les arènes, on parle de leur destin et on décide de leur destin, alors parfois sans eux, mais heureusement de plus en plus souvent avec eux, mais ils sont évidemment partagés aussi entre la volonté de suivre les espoirs qu'ils peuvent en avoir quant à la suite des événements, mais aussi la nécessité de vivre au jour le jour. Et beaucoup d'Ukrainiens, en fait, que je rencontre ici, vont dire, notre survie et la suite de cette guerre, elle se joue 24 heures par 24 heures, que ce soit sur le front ou à l'arrière.
Est-ce que ça veut dire qu'ils considèrent qu'on est en train de négocier une paix ou une trêve, qu'ils considèrent qu'on parle pour ne rien dire, qu'ils ne parlent même pas ni de paix ni de trêve? Les mots qu'on emploie à Kiev, c'est quoi?
Alors évidemment, à Kiev, tout ça est étalé dans le temps. Ces pourparlers qui ont démarré, qui n'ont pas démarré avec l'élection de Donald Trump, mais qui depuis l'élection de Donald Trump ne cessent de s'étendre dans un immédiat qui a pas de limite. Il y a quelque chose qui est vraiment partagé par tous ceux qui réfléchissent à la guerre et tous ceux qui agissent dans la guerre. C'est cette idée que ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui n'est absolument pas la fin du conflit armé, n'est absolument pas la résolution du conflit armé, mais certainement, je dirais, un changement de statut. Donc sans doute une interruption des combat, une transformation aussi de l'intensité de la guerre, son gel, mais qui bien évidemment rend encore plus saillant en fait les problèmes qui ne sont pas résolus. Et la question que les Ukrainiens se posent, c'est est-ce que finalement ce cessez-le-feu que d'une certaine manière ils espèrent aussi, parce que bien évidemment c'est extrêmement dur à la fois sur le front et à l'arrière, est-ce que ce cessez-le-feu il va améliorer les choses ou est-ce qu'il va empirer les choses?
Est-ce que nous on a tendance à dire, et au fond peut-être depuis le mois d'août d'ailleurs, depuis Anchorage et depuis ça n'arrête pas en fait, on se dit on est peut-être à un tournant de la guerre. Est-ce qu'il y a cette idée de tournant de la guerre? Et j'ai envie de vous poser la question à double entrée, Anna-Kona Lebedev. Est-ce que les Ukrainiens peuvent imaginer qu'on est de toute façon à un tournant de la guerre parce qu'on passe à une autre phase? Et est-ce que vous, avec votre regard de chercheuse, vous dites, c'est vrai, on est à un tournant de la guerre, la carte, de toute façon, va changer?
Ben ça, en réalité, on ne peut pas le dire, parce que pour l'instant, il nous manque un élément clé dans ce puzzle, c'est la réaction de la Russie à la dernière phase de ce, je ne dirais pas de ce tournant, mais de ce tournis. Hein. On ne cesse d'être dans un manège qui retourne un petit peu sur son axe, avec des propositions, avec des négociations, avec des pressions de plus en plus fortes du côté des Américains, et puis au final, en fait, ça repart à la case départ dès que ça passe par la case Russie. Donc les Ukrainiens, ils le sentent, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une attente de tournant, mais en même temps, ils se disent bien que là, il y a quelque chose au niveau du rapport de force qui peut effectivement jouer un rôle. Hein. Il peut y avoir une rupture due à un rapport de force trop inégal et c'est aussi sur ça qu'ils sont en train de jouer sur la ligne de front en essayant de montrer en fait que non, l'armée ukrainienne n'est pas inexorablement repoussée à tous les endroits par l'armée russe. Mais évidemment, à un moment donné, il va y avoir un statut de ce conflit armé. Je pense que l'erreur serait de voir le tournant comme quelque chose de radical et comme un chemin vers une sortie, là où en fait ça peut être une étape.
Et je vous livre cette phrase de Volodymyr Zelensky à l'instant, d'ailleurs, hein, avant de partir demain pour Bruxelles, Moscou se prépare à une nouvelle année de guerre, et Zelensky le dit, puisqu'il y a la phrase de Vladimir Poutine juste avant, qui dit les objectifs de Moscou seront sans doute atteints. Quand on parle de territoire, Anna Kolina-Lebedev, hein, est-ce qu'on peut dire à Kiev, il faudra lâcher des territoires, est-ce que c'est trop compliqué? Ou est-ce que dans l'esprit des gens, c'est acquis ?
Je crois que la question n'est même pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ce qui est discuté, ce n'est pas est-ce qu'on cède tel ou tel territoire à la Russie. La question, c'est si on interrompt les actions armées de haute intensité, quelle sera la ligne, en fait, qui sera la ligne de cessez-le-feu. Et donc, en fait, la question qui se pose, ce n'est pas est-ce qu'on donne à la Russie, par exemple, un territoire, mais c'est est-ce que la ligne de cessez-le-feu, par exemple, inclut ce que la Russie demande, hein, des territoires qu'elle ne contrôle pas militairement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut avancer, en fait, là où l'armée ukrainienne tient jusqu'à maintenant. Il y a des enjeux dans cette ligne de démarcation, mais je dirais, on n'est pas en train de négocier là quelque chose de définitif, on n'est pas en train de négocier là une annexion par la Russie d'une partie des territoires, mais plutôt des conditions dans lesquelles va se déployer ce qui est le plus important, à savoir les conditions, ce qui est appelé dans les négociations les garanties de sécurité, les conditions qui feront que la Russie sera découragée à réattaquer et donc à faire bouger cette ligne et à avancer militairement. Et ce que jusqu'à maintenant elle fait et veut continuer à faire.
Et j'allais vous poser la question parce que quelle sera la ligne, mais aussi à qui profite la trêve au final. Et on se rend bien compte que la trêve profite finalement peut-être beaucoup plus à la Russie qui se réarme pour repartir, pendant que l'Ukraine de son côté a terriblement besoin de souffler en fait.
C'est évidemment une inquiétude, c'est-à-dire que qui va sortir gagnant de cette période d'interruption ? Et les Ukrainiens, dans la mesure où bah, précisément les textes qui sont négociés maintenant ne prévoient absolument aucune résolution politique, se pose la question qui prendra l'avantage et donc quelle sera la prochaine phase du conflit, avec ce risque effectivement que la Russie se repose, se réarme, se remilitarise et mobilise davantage la société et la population, mais aussi le risque que de notre côté, en fait, profitant du fait qu'on a signé un papier et que donc les bombardements se sont arrêtés et que les gens ont cessé de mourir en tel nombre sur la ligne de front, on va faire ouf, on va considérer que c'est terminé et on va pas créer les conditions qui feront que l'Ukraine serait capable de résister quand la Russie réattaquera.
Est-ce que ça veut dire que l'Ukraine, les Ukrainiens sont prêts à continuer cette guerre, c'est-à-dire pour éviter qu'une trêve arrive, comme vous le dites, sur des bases qui sont trop fragiles et qui sont trop vaseuses. Est-ce que l'Ukraine est prête à continuer la guerre ? Je vous pose la question parce que on entend et on voit les problèmes liés à la conscription, par exemple, les difficultés aujourd'hui à aller au front pour les jeunes Ukrainiens. Tout ça, ça pèse quand même, j'imagine, non, dans la société aujourd'hui.
Alors, bien évidemment, la guerre va bientôt, on sera bientôt à 4 ans de guerre de haute intensité. Oui. Les problèmes ne font que s'accentuer et même si, voilà, on a une armée qui gagne en compétences, qui gagne en organisation et en performance et qui innove énormément sur les lignes de front, on a beaucoup de problèmes qui s'accumulent. Et aujourd'hui, vous voyez, les forces armées ukrainiennes, c'est grosso modo comme si on avait affaire à une voiture dont il faudrait changer le moteur en pleine course de haute vitesse. Mm-hmm. Hein. C'est extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'il faut introduire des réformes, par exemple, organisationnel en réalité, hein, pour que la mobilisation et la conscription puissent bien se dérouler. Mmh. Il faut réorganiser les forces armées, il faut avoir un peu plus de ressources qui sont injectées. Pour tout ça, il faut évidemment une interruption des combats rendrait les choses plus simples, mais en même temps, ça crée de nouveaux problèmes. Et surtout, en fait, il y a cette peur que les partenaires de l'Ukraine, les soutiens de l'Ukraine démobilisent, là où la Russie ne se démobilisera pas.
Et justement, c'était ma question suivante, le sommet va s'ouvrir demain, on sait qu'il faudra se montrer unis, il faudra trancher sur la question des avoirs russes, c'est quand même intéressant qu'il y ait eu ce petit coup de pression, Washington fait pression sur les Européens pour ne pas utiliser les avoirs russes gelés pour Kiev, c'est ce que dit un responsable ukrainien aujourd'hui, donc on sent bien que ça tangue là-dessus. Est-ce que les Ukrainiens nous sentent, nous, tangués, quand ils ont fait une croix de toute façon de ce qu'on comprend sur les Américains, est-ce qu'ils sentent que nous, on est beaucoup moins fiables que nous l'avons été ?
Je pense que ce n'est pas tant ça, mais les Ukrainiens observent, et à mon avis à juste titre, notre difficulté à envisager le problème à l'échelle à laquelle ils se posent. Mmh. C'est-à-dire une guerre qui est effectivement très à proximité, qui concerne complètement les enjeux européens et pour lesquels il faut des transformations majeures. Et il faut aussi une acceptation sociale de ces transformations. Il faut un engagement beaucoup plus intense. Donc, je dirais, ce que nous avons connu sur les phases précédentes de la guerre, que les Ukrainiens disaient, quand ils parlaient de livraison d'armes trop peu, trop tard. Mmh. On est un peu dans la même problématique aujourd'hui, c'est-à-dire que les bonnes décisions sont prises, mais elles sont prises à une vitesse qui n'est pas la vitesse à laquelle la Russie avance.
On sait bien, Anna Kolin-Lebedev, que quand Volodymyr Zelensky accepte de mettre son mandat en jeu et dit oui à des élections, il le fait pour faire taire Moscou, en gros, parce qu'il est intelligent, il joue ce jeu-là. Cette éventualité des élections, est-ce qu'elle existe en Ukraine ou c'est pas du tout le sujet ?
Alors, l'éventualité existe, bien évidemment, et le jour où la loi martiale est levée, il y aura une demande sociale. Si on est suffisamment en sécurité, notamment pour organiser les élections et pour conduire une campagne où il n'y aura pas d'ingérence russe, parce qu'il y a vraiment les deux dimensions, les élections se tiendront et Zelensky mettra son mandat en jeu. Et à ce moment-là, il y aura des alternatives, il y aura d'autres candidats, il y aura du débat, etc. Mais aujourd'hui, en fait, les Ukrainiens n'expriment pas de demande d'élection. Mmh. Bien au contraire, il y a plutôt un consensus pour dire, là, dans les conditions actuelles, ça ne peut pas se tenir pour toute une série de raisons. Déjà, pour ne pas mettre en fait en danger les citoyens qui votent, quel que soit le lieu. Les conditions ne sont pas réunies non plus pour faire voter, par exemple, les habitants de ces territoires qui sont aujourd'hui sous occupation russe ou des territoires qui sont sur la ligne de front. Il y a tout un tas de difficultés qui font que, aussi bien chez les personnalités d'opposition qu'au sein de la classe politique, il y a un consensus pour dire ce n'est pas le moment, mais bien évidemment, quand ce sera le moment, la vie démocratique et politique reprendra.
Très rapidement, la popularité de Volodymyr Zelensky aujourd'hui en Ukraine, de ce que vous constatez, vous ?
Pas beaucoup de changements, c'est-à-dire qu'on a un soutien à Volodymyr Zelensky comme expression de l'intérêt de l'Ukraine, défenseur des intérêts de l'Ukraine sur la scène internationale, des critiques en interne, mais je dirais rien que du très banal là-dedans. La gestion est critiquée en interne, mais en revanche, cela ne délégitime pas le président quand il négocie l'avenir de son pays.
Anna Kolin-Lebedev, je vous remercie beaucoup, vous êtes à Kiev et je vous remercie de votre passage chez nous d'un jour dans le monde. Merci. La suite, ce soir, c'est vous, Frédéric Seyss, qui remettez le monde à l'endroit.
Et pourquoi Donald Trump se refuse à parler de guerre à propos du Venezuela.
Et c'est juste après ça. Let me dance away forever. new-yorkais de Jeez dans la playlist d'Inter. Le titre, c'est Cobra, le monde à l'endroit. C'est Frédéric Seyss.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Question facile, réponse compliquée. Frédéric, quel est le but de Donald Trump au Venezuela ?
C'est une vidéo un peu floue, aux couleurs fades. On y voit des militaires casqués et armés qui descendent en rappel depuis un hélicoptère sur le pont d'un navire. Image de l'armée américaine qui prend possession d'un cargo rempli de pétrole vénézuélien. La scène se passe en mer des Caraïbes il y a exactement une semaine. Et c'est l'administration américaine qui publie cette vidéo. Le message est clair, l'étau se resserre. Donald Trump accroît chaque semaine un peu plus la pression sur le Venezuela depuis les premières frappes américaines en septembre contre des bateaux suspectés de convoyer de la drogue jusqu'aux sanctions contre des proches du pouvoir vénézuélien, sans oublier hier l'annonce d'un blocus contre les navires pétroliers qui arrivent ou qui partent du Venezuela. Il s'agit d'asphyxier l'économie. Le sous-sol vénézuélien possède parmi les plus grandes réserves mondiales de brut. La quasi-totalité des recettes à l'exportation proviennent du pétrole, 8 barils sur 10 expédiés vers la Chine. D'ailleurs, il y a quelques minutes, Pékin a haussé le ton. La Chine soutient le Venezuela et s'oppose à toute intimidation unilatérale, je cite. Preuve que l'enjeu de cette affaire dépasse de très loin la mer des Caraïbes.
Il y a la pression économique, donc, mais aussi la pression militaire.
Et c'est une armada qui est mobilisée autour du Venezuela. Le mot est celui de Donald Trump. 15 000 hommes déployés dans la région. Des avions de chasse, des bombardiers, un sous-marin à propulsion nucléaire et au moins 8 bateaux de guerre, dont le plus grand porte-avions du monde, l'USS Gerald Ford. Alors, est-on encore dans le cadre de la lutte contre la drogue ? Lutte qui est jusqu'ici le seul motif officiellement invoqué par la Maison-Blanche. Évidemment non. L'objectif paraît plus large, c'est le changement de régime, la fin du pouvoir de Nicolas Maduro. C'est d'ailleurs l'une des plus proches collaboratrices de Donald Trump qui l'admet, Susan Wiles, sa directrice de cabinet. Trump veut continuer à faire exploser des bateaux jusqu'à ce que Maduro capitule, explique-t-elle dans le magazine Vanity Fair. Ça a au moins le mérite de la clarté.
Ce qui est moins clair, Frédéric, c'est si Donald Trump a le droit de mener ses actions.
Oui, on ne parle pas seulement du droit international. Sur ce point, les bombardements de bateaux civils sont considérés comme des exécutions extrajudiciaires par des experts de l'ONU. Mais qu'en est-il du droit américain ? L'envoi par Donald Trump de milliers de soldats au large du Venezuela pose question, car aux États-Unis, ce n'est pas le président qui a le pouvoir de déclarer la guerre, c'est le Congrès, autrement dit les élus, les parlementaires. Alors certes, la Constitution américaine offre quand même au président le pouvoir d'envoyer des troupes, mais il doit ensuite obtenir l'approbation du Congrès sous 60 jours, sous 2 mois, une autorisation dont Donald Trump se passe en évitant justement de prononcer le mot « guerre », en évoquant seulement la lutte contre la drogue. Il veut éviter tout débat sur cette intervention qui ne dit pas son nom. Il y a une autre raison à cela. La base électorale trumpiste est très hostile aux interventions à l'étranger après les fiascos en Afghanistan et en Irak. Trump s'est fait élire d'ailleurs en promettant de résorber les guerres et non pas d'en déclencher de nouvelles. Voilà pourquoi il pousse la pression au maximum en espérant que le président vénézuélien quittera le pouvoir sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré.
Frédéric Seyss, merci beaucoup. Le reportage. Dois-je vraiment vous dire où est le reportage d'un jour dans le monde ce soir, un jour en Espagne, avec les pieds qui bougent, nous allons parler flamenco, mais rassurez-vous, nous allons sortir des bars à touristes et du folklore, contourner aussi la très célèbre Rosalia qui a révolutionné le flamenco, qui l'a fait entrer tout droit dans la culture pop, et vous allez voir qu'elle n'est pas toute seule. On va s'enfoncer ensemble dans les bars de Madrid, écouter le flamenco qui se rénove, qui fusionne, se réinterprète. Madrid veut même faire de cette danse née en Andalousie le porte-étendard de la danse du 21e siècle. On convoque désormais les jeunes créateurs pour savoir comment ils parlent. Le taconeo, ce bruit reconnaissable à tous les coups, les coups de talons sur le bois. Laissez-nous vous embarquer. Le reste, c'est Mathieu de Taillac qui raconte.
Quelques accords de guitare, des palmas, cette façon de taper dans les mains pour marquer le rythme. Difficile de ne pas reconnaître un spectacle de flamenco. Sauf que la majorité du spectacle, on entend une musique électronique et on voit les deux danseurs s'allonger, s'asseoir pendant 20 minutes, monter une chaise à coups de marteau et même frapper du pied des chaussées. Alors qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Irene Tena et Albert Hernández, passés par la danse classique et par la danse contemporaine, ont créé et interprètent ce spectacle intitulé No, pour raconter autre chose. Irene Tena.
No est un spectacle par lequel on ouvre un espace à la question, à la recherche, à la réflexion, sur ce qui nous identifie comme danseurs, interprètes et créateurs. Qu'est-ce qui a fonctionné pendant toutes ces années? Que veut-on rejeter? Que veut-on garder?
Est-ce encore du flamenco que viennent voir les madrilènes dans le centre de danse Matadero? Les critiques parlent parfois de néo-flamenco ou de flamenco contemporain. Les artistes n'aiment pas beaucoup ces étiquettes. Albert Hernández.
C'est un spectacle qui se nourrit des références du flamenco. Un danseur qui pose le pied sur scène, s'il le pose d'une manière concrète, on sait qu'il vient du flamenco ou qu'il a du flamenco en lui. Mais notre danse ne peut pas être enfermée dans une case, dans un style concret. L'idée est d'utiliser notre corps pour aller jusqu'aux limites auxquelles il peut nous porter.
Ces réflexions et l'art qui en résultent exigeants pour le public, c'est le pari du Centro Danza Matadero, une institution municipale. L'adjointe au maire à la culture, Marta Ribera de la Cruz, veut que la ville de Madrid soit le fer de lance de la rénovation de cet art si espagnol.
Il y a une génération de jeunes artistes qui ont trouvé dans le flamenco une source d'inspiration, de création et de mise en scène. Et après, ils en ont fait autre chose, pas du flamenco pur. Fort heureusement, l'art du flamenco n'est pas un art réservé aux puristes.
Cette flexibilité, ce caractère malléable sont précisément partie intégrante du flamenco. María Pajés en est convaincue, co-directrice du Centro Danza Matadero, après avoir été acclamée sur les plus grandes scènes comme danseuse et chorégraphe.
L'origine du flamenco, c'est populaire. C'est pas dans les théâtres que c'est né, c'est pas dans les palais comme les ballets classiques. C'est né dans la rue, c'est né dans les maisons, c'est né. Et ça marque beaucoup. Le flamenco, c'est très ouvert, c'est très flexible. Et l'autre chose, c'est la capacité d'absorber tout.
L'autre co-directeur, c'était Biel Arti, écrivain, dramaturge et une époque professeur de littérature espagnole à Rabat, un étranger professionnel, comme il dit, et un regard international sur le flamenco.
Centro Danza Matadero est inspiré des centres chorégraphiques français. Les plus grandes compagnies en France maintenant sont des compagnies qui viennent de hip-hop. La conscience qu'a pris la France vis-à-vis de la danse urbaine, j'espère que les Espagnols, les institutions, la société espagnole prennent cette même conscience vis-à-vis de la danse flamenco. J'ai vu pleurer les Nigériens, j'ai vu pleurer les Chinois, les Américains, les Japonais, en regardant un spectacle flamenco. Ça veut dire l'émotion est une émotion universelle.
Un géant des arts espagnols, Salvador Dali, a une phrase qu'il avait pensée comme souvent pour se décrire lui-même, mais elle définit parfaitement les nouvelles ambitions de l'Espagne pour le flamenco. Pour être universel, il faut être hyper local.
On adore le son, on adore cette phrase aussi. Pour être universel, il faut être hyper local. Mathieu de Taillac, merci beaucoup pour le reportage. La suite ce soir, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est vous, Guillaume Audin.
Sous les radars, la Chine vorace qui, en plus d'acheter beaucoup d'or, s'empare de mines au Brésil, d'où l'on extrait des tonnes et des tonnes de ce métal précieux.
Et puis, écrire le monde avec vous, Ilana Mor-Youssef, qui lisait et relisait au fil de l'actualité.
Survivre sous une dictature avec l'appel, le très beau livre de Leila Guerriero.
Allez, à tout de suite, les amis. Le tour de la planète fait une pause en Afrique du Sud avec Urban Village. Nous sommes dans les rues de Soweto avec un mélange de folk et de culture zoulou. Le morceau s'appelle Ubada et c'est le choix musical de Djoubaka. Oh.
wongo wo wongo ma ima ile ile mama wo wongo mama ima ile ile mama wo wongo mama ima ile ile mama wo wongo mama wongo 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 ta la 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 la
Les Sud-Africains d'Urban Village avec Oubada. Qu'est-ce qui se passe sous les radars? C'est Guillaume Audard qui y plonge tous les soirs.
Jacob Hellberg, Undersecretary of State for Economic Affairs, is leading one of those key initiatives, Pax Silica.
Pax Silica, le nom est donc romain, le projet américain. On parle de minerais critiques et d'une ambition contrée Pékin.
Voilà, et c'est Bloomberg TV, le network financier américain, qui consacre une très large page de son émission Nouvelle Technologie à cette initiative majeure lancée par le département d'État, l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères, Pax Silica, ou l'alliance sous le lead de Washington entre 9 États et des entreprises de la tech autour d'un objectif: sécuriser les fameuses chaînes d'approvisionnement technologique, celles par lesquels sont produits, sont raffinés et circulent les minerais critiques, le carburant en quelque sorte des intelligences artificielles, et parmi eux le silicium, crucial, le silicium pour les semi-conducteurs ou les puces qui équipent toutes sortes d'appareils civils et militaires. Pax Silica, retenez bien le nom de cette alliance, la paix par le silicium, États-Unis et alliés stratégiques en Asie-Pacifique, les Émirats, Israël ou encore les Pays-Bas et le Royaume-Uni forment ce partenariat géopolitique inédit, penser comme une réponse directe à l'influence croissante de la Chine dans le secteur des IA.
Canadense Equinox Gold anunciou a venda de 100% de suas minas de ouro no Brasil.
De Chine, il est encore question ici, Guillaume. L'un de ces géants miniers s'empare de 4 mines d'or au Brésil pour la coquette somme $1 billion.
Et c'est un deal de première importance qui démontre que Pékin monte en gamme et investit dans tous les secteurs, celui des métaux précieux, en l'occurrence l'or, dont le cours est littéralement en train de flamber. Il s'est apprécié de 60% rien que cette année. C'est une des entreprises d'extraction minière les plus importantes de la planète qui vient de conclure ce marché. CM aussi, une compagnie chinoise qui pousse ses pions en Amérique latine, l'arrière-cour traditionnelle des États-Unis. Environ 8 tonnes par an devraient sortir de ces mines brésiliennes. L'objectif annoncé est d'atteindre les 20 tonnes d'or annuel. Tout cela dans un contexte d'instabilité monétaire et stratégique, comme si la Chine, qui se défait une à une de toutes ses dépendances technologiques, énergétiques et maintenant en métaux précieux, se préparait à un monde plus conflictuel et donc moins prévisible. Un monde où il faut investir en ressources, un chiffre, 2303 tonnes, jamais l'Empire du Milieu n'avait accumulé autant d'or. Pékin entre dans le club des 6 grands détenteurs, la France y figure, comme la Russie. Washington est en tête avec 8133 tonnes.
I più grandi raggiungevano i 10 metri di lunghezza e peso fino a 4 tonnellate.
D'après les empreintes, le plus grand des spécimens atteignait 10 mètres de longueur. Il pesait 4 tonnes environ. Ce monsieur parle de dinosaures. Nous sommes en Italie.
Voilà, et vous avez vu, hein, je ne vous ai pas refait le coup de la bande originale de Jurassic Park avec Thomas à la réelle. On a décidé de varier les plaisirs en tout cas. Ce monsieur italien qui nous parle de dinosaures, il est paléontologue au musée d'histoire naturelle de Milan. Et qu'est-ce qu'il nous apprend? Découverte stupéfiante sur les parois quasi verticales des Alpes italiennes. Tout au nord du pays, on a identifié des milliers d'empreintes de prosauropodes. Ce sont des herbivores à très long cou et petite tête, les ancêtres des fameux brontosaures. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé figés dans la roche depuis 210 millions d'années? Eh bien, les contours très précis de leurs griffes, de leurs orteils, en clair de leurs grosses papattes. Ce qui veut dire que ces dinosaures aimaient bien l'Italie, pas forcément gambader dans
cuisine.
Les montagnes à la verticale. Voilà, les pâtes, l'huile d'olive, évidemment. Alors, je vous rassure, elles gambadaient pas ces bestioles à la verticale, hein, parce qu'à l'époque, tout était plat. Elles se sont formées, ces fameuses montagnes de Lombardie, grâce grâce, vous le savez très très bien Fabienne, au mouvement très lent des plaques tectoniques il y a des millions d'années.
Voilà, on est content d'avoir retrouvé les grosses pattes. Voilà. En tout cas, Guillaume Audin, merci beaucoup. À demain, le mercredi, Ilan Amor, Youssef Lee et Relly. Au fil de l'actualité, ça s'appelle Écrire le Monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
Ilana, la semaine dernière, le président argentin Javier Milei a pris l'avion pour la Norvège. Il a assisté à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix à l'opposante vénézuélienne, Maria Corina Machado, qui vient d'ailleurs de quitter Oslo. Quelques jours auparavant, le ministre argentin des Affaires étrangères avait dit sur X ceci: l'Argentine est toujours du côté de la liberté et de la démocratie. Elle accompagne donc la prix Nobel, Maria Corina Machado, à la cérémonie des prix Nobel de la paix à Oslo. L'Argentine du côté de la liberté et de la démocratie, c'est cette affirmation qui vous a fait sursauter, Ilana.
Bien sûr que ça m'a fait sursauter. Qui n'a pas en mémoire les 30 000 disparus, les 9 000 prisonniers politiques et les 1,5 million d'exilés de la dictature militaire argentine ? Qui a oublié les maires de la place de Mai qui manifestaient chaque semaine pour réclamer des nouvelles de leurs disparus ? Cette dictature militaire, que ses instigateurs appelaient le processus de réorganisation nationale, a duré 7 ans, de 76 à 83, et elle a laissé des traces profondes. C'est le sujet de l'appel, histoire d'une femme argentine, de Leila Guerriero. Ce récit extraordinaire vient d'obtenir le prix du meilleur livre étranger en catégorie non-fiction.
Alors un mot peut-être de Leila Guerriero ?
Alors, Leila Guerriero est une journaliste argentine. Elle s'est très vite rendue compte que le journalisme d'actualité pure ne lui convenait pas. Elle m'a raconté qu'un jour, le patron d'un grand quotidien argentin lui a proposé de l'embaucher comme reporter. Elle était sans travail, mais elle a refusé. Et elle a bien fait, car elle est devenue l'une des plus remarquables représentantes latino-américaines de ce qu'on appelle la non-fiction littéraire. Dans l'appel, elle fait le portrait de Silvia Labayrou, une jeune femme qui avait 20 ans au début de la dictature. Elle faisait partie d'un groupe armé, les Montoneros, et un jour, à Buenos Aires, Silvia Labayrou est arrêtée et séquestrée dans l'un des pires centres de détention du pays. Mais pourquoi s'intéresser à Silvia plutôt qu'à une autre des milliers de victimes de la dictature, Leila Guerriero ?
L'histoire de Silvia a attiré mon attention. C'était un condensé des pires horreurs commises par la dictature. C'était une survivante, mais pas n'importe quelle survivante. Elle était enceinte de 5 mois quand elle a été séquestrée. Elle a accouché de sa fille sur la table de torture. Elle a été obligée de participer à des opérations parmi les plus obscures, les plus atroces de la dictature. Elle a été systématiquement violée pendant sa captivité. Et en plus, au moment où j'ai fait sa connaissance, Silvia était l'une des 3 premières femmes à porter plainte contre ces violeurs.
Et donc Silvia Labayrou, c'était une femme hors du commun, Ilana ?
Elle l'était, en effet, et à plus d'un titre. D'abord, elle n'a pas été assassinée en captivité. Elle a été libérée au bout de 18 mois. Elle a aussitôt quitté l'Argentine pour l'Espagne. Et là, surprise, elle a reçu un accueil très froid, très méfiant des autres exilés argentins. Il y avait des doutes, des questions à son sujet. Elle avait survécu, mais en contrepartie de quoi ? Et sa fille, née en captivité, a été remise à ses grands-parents. Elle n'a pas été enlevée et donnée à l'adoption à une famille proche du pouvoir. Tout cela faisait d'elle une personne éminemment suspecte, comme en témoigne ce passage du livre.
Quand je suis arrivée à Madrid et que j'ai commencé à voir que les gens ne voulaient pas m'accueillir chez eux, la façon dont Alberto me traitait, je me suis rendu compte que ce n'était pas fini. On était ensemble avec Alberto, mais il se méfiait de moi. Tous les exilés lui disaient la même chose. Comment se fait-il que ta femme soit vivante ? C'est une traître. Il n'a pas voulu qu'on s'installe à Madrid parce que c'est là qu'étaient les exilés. Il m'a tout de suite emmenée à Marbella. Lui non plus n'assumait pas de vivre avec une pestiférée.
Merci beaucoup à Mao de Butler pour la lecture. Mais dites-moi, Ilana, comment ne pas céder à la fascination pour son sujet ?
C'est une question que j'ai évoquée avec Leila Guerriero, car c'est facile en effet de tomber dans la géographie. Principe numéro 1, on a le droit de trouver son sujet sympathique, mais on ne doit rien prendre pour argent comptant. Principe numéro 2, ne pas rester en tête-à-tête avec son sujet, car même s'il ne ment pas sciemment, la mémoire, elle, est trompeuse. Et c'est là qu'on reconnaît que Guerriero est une grande. Son portrait fouille toutes les zones d'ombre, pose toutes les questions. Et le résultat me fait penser à une boule à facettes. Ça change tout le temps.
A mí me gustan mucho esas narraciones.
J'aime beaucoup les narrations instables. Tu regardes un film, un documentaire ou tu lis un livre et tu es sûr que tu as identifié les bons et les méchants. Mais la page d'après, les choses deviennent bizarres et encore plus bizarre la page suivante. Puis tu as l'impression que les choses se rééquilibrent et puis ça bouge encore. Il n'y a pas d'étiquette qui proclame victime, bon, méchant, bourreau. L'instabilité des récits m'intéresse beaucoup parce qu'elle reflète, je crois, l'instabilité de la vie.
Il y aurait encore mille choses à dire sur ce livre passionnant. D'abord, son écriture, qui m'a rendue, disons-le, jalouse. Par exemple, Guerriero fait le portrait d'une femme dans son livre. Elle dit à quel point cette femme est extravagante, spectaculaire, extraordinaire, peu commune, etc. Ça dure pendant 2 pages et tout à coup, elle conclut. Ce n'était pas une femme, c'était un événement. Le genre de phrase qui réveille le lecteur. Et pour finir, l'appel est aussi le portrait d'une génération de jeunes gens qui voulaient changer le monde, qui se sont trompés, et donc un livre sur les illusions et les désillusions de la vie.
Ilana Mor Youssef qui nous donne chaque semaine tellement envie de lire. Ilana, merci beaucoup. Ça s'appelle L'Appel de Leila Guerriero, traduit de l'espagnol de l'argentin par Mayra Mouchnik, publié aux éditions Rivage.